solution. Ici, chez nous, on a même internalisé les dispositions de cette convention dans notre ordonnancement juridique. Malheureusement, la corruption se banalise parce que la condition sine qua non pour combattre la corruption, c'est une volonté politique inébranlable à toutes les épreuves. Malheureusement, j'ai suivi l'élément de RDC, c'est la même logique, c'est le même esprit, parce que les potentiels clients de la corruption et des infractions assimilées sont les gouvernants. Et en principe, dans nos pays, le parquet est lié à l'exécutif, donc il n'est pas indépendant. Et dès lors que le parquet n'est pas indépendant, mais il ne peut pas poursuivre les politiciens, les gouvernants, c'est eux-mêmes qui sont corrompus, parce que la corruption en Afrique se trouve dans le système politique. Et même la Convention des Nations Unies a prévu un article spécial par rapport à la justice. Parce que tant que vous n'avez pas un système judiciaire intègre, c'est que vous ne pouvez pas combattre la corruption, parce que la corruption, c'est une affaire de prévention et surtout de répression. Vous avez beau...
Mais dites-nous, dans le cas des pays qui ont instauré des lignes vertes, l'objectif c'est de pousser les populations à participer dans cette lutte. Mais est-ce que les populations participent vraiment dans cette lutte contre la corruption?
Oui, effectivement, quand la ligne verte a fait un travail où elle a un peu démystifié les rapports de la justice avec les justiciables, où les gens, vous savez, on a une justice un peu coloniale, où pratiquement c'est en français, on rend la justice, et les citoyens qui, dans leur écrasante majorité, ne parlent pas français, c'est un problème.
C'est un problème, d'accord.
Le complexe, c'est...
D'accord.
Oui.
On va peut-être... D'accord, on peut revenir sur tout cela, mais Mathias Oumpé, justement, la participation de la population dans la lutte contre le fléau est d'autant plus salutaire et important que, selon Transparency International, les pauvres, en fait, payent deux fois plus en pot de vin que les riches. Cette population s'implique-t-elle comme il le faut?
Disons qu'il y a des... Quand vous êtes pauvre, en règle générale, vous vous sentez impuissant devant l'appareil de l'État. Donc ça, c'est le premier niveau de difficulté que, je vais dire, les citoyens ordinaires ont à participer à la lutte contre la corruption. Le deuxième niveau de difficulté que les citoyens ont, c'est leur protection vis-à-vis de ceux qui sont généralement corrompus, qui sont des gens qui sont bien placés dans l'appareil de l'État et qui ont les moyens. Si vous n'avez pas des dispositions pour garantir, par exemple, l'anonymat de ceux qui reportent des cas de corruption et garantir leur protection contre des mesures de représailles, c'est très difficile de demander aux citoyens d'apporter leur contribution, n'est-ce pas, à la lutte contre la corruption. Et là où nous en sommes aujourd'hui, je peux vous garantir que ces moyens ne sont pas réunis. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont adopté des lois de protection des lanceurs d'alerte, parce qu'il y en a, il y a quelques pays en Afrique qui ont adopté, mais même les pays où ces lois sont adoptées, je ne crois pas que les citoyens se sentent en sécurité pour participer à la dénonciation des cas de corruption.
Pour le cas du Sénégal, où vous êtes basé, il y a ce qu'on appelle l'OFNAC, par exemple, qui, en principe, garantit l'anonymat à ceux qui dénoncent des cas de corruption, par exemple.
Oui, bon, c'est ça justement ce que je dis. Mais il faut pouvoir gagner la confiance des citoyens que leur anonymat sera vraiment garanti. Je crois que nous sommes aussi dans des environnements où la confiance des citoyens, n'est-ce pas, aux institutions est très faible. Nous pensons que tous ceux qui sont dans l'appareil de l'État sont comme des complices placés à des postes pour organiser, n'est-ce pas, voilà, exactement. Et donc, les citoyens n'ont pas confiance en ces mécanismes comme des garanties sérieuses de protection de leur anonymat.
D'accord. Alors, Amadou, je me tourne vers vous. Il y a des organismes ou des programmes lancés un peu partout en Afrique, mais les populations, ils voient souvent aussi un moyen de régler des comptes politiques aux opposants. Comment rendre ces institutions plus crédibles auprès des populations?
Voilà, très bonne question. Ces organismes anticorruption ont essaimé un peu partout et effectivement ont fonctionné comme juste des cautions de lutte, mais pas comme des instruments efficaces. Alors, pour cela, il lui fallut qu'il y ait un peu plus de crédibilité, disons, à la chose. Et pour cela, il faut, disons, faire face à là où, disons, le problème est à l'origine, c'est-à-dire le pouvoir. Et savoir que le pouvoir, ce n'est pas tout. Quand on traque un gibier, il faut se mettre dans les conditions optimales pour l'avoir. Il faut la distance, il faut se mettre à l'avantage du vent. Il faut ajuster son tir. Et tout ceci, ce n'est pas un hasard, c'est que pour la corruption, il faut veiller à réunir à peu près quatre angles. Le premier angle, c'est d'abord celui des grands commerçants. Ça, c'est un peu, disons, la formule d'avoir l'avantage du vent. Les grands commerçants, c'est les grands corrupteurs, c'est les grands financeurs du système politique.
Malheureusement, ça, c'est... on n'a pas là, ils sont pas là pour se défendre non plus, ça, mais disons que...
Bon, absolument, donc ça c'est un premier point. Le deuxième angle d'attaque, c'est les partis politiques eux-mêmes. C'est que les partis politiques doivent se financer pour aller à la conquête du pouvoir. Donc c'est un centre important, disons, de génération de la corruption. Alors, un troisième angle, ce serait, disons, les bureaucrates, les fonctionnaires. Donc, ceux-ci ont la discrétion, disons, des règlements, des décrets, ainsi de suite. Et leur application plus ou moins heureuse va dicter, disons, le succès de la lutte contre la corruption. Et dernièrement, je dois dire, le dernier angle, c'est la dimension internationale.
Parce que la corruption, on va revenir sur la dimension internationale, voilà, en seconde partie. Hein.
C'est ça, merci. Voilà. Donc, parce que d'accord, la corruption, oui, a cette dimension.
Tout à fait. Alors, El Hadji Idi Abdou, si la corruption est bien répandue, c'est certainement parce qu'elle est entretenue par ces mêmes populations qui la dénoncent. La société civile s'en prend souvent au gouvernement, aux institutions.
Dans tous les pays où la lutte a prospéré, c'est qu'on prend des lois qui protège les dénonciateurs et les témoins. Et malheureusement, chez nous, comme il manque cette volonté politique, parce que c'est la volonté politique qui est capable.
Il y a des institutions qui sont chargées de fournir des services sociaux de base aux citoyens, avoir des règles claires qui sont connues de tout le monde et des voies de recours faciles à mettre en œuvre peuvent aider les citoyens à réduire l'obligation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui à...
D'accord.
On devrait le donner de façon gratuite.
D'accord.
Et donc, de mon point de vue, voilà, il y a plusieurs angles par lesquels on peut attaquer la question.
D'accord. Alors, je crois qu'on vous perd un peu, mais on a compris un peu votre point de vue. Amadou Cissé, on a de la cola qu'il faut donner aux visiteurs, etc. C'est pas que vous acceptez ou c'est juste une excuse pour donner à la corruption?
Bon, je vraiment m'excuse. Alors, en fait, je pense que c'est une certaine ligne graphique actuelle, en réalité. C'est que là, c'est des gens qui disent que, bon, écoutez, la corruption, c'est d'ordre, ça a une explication culturelle. Alors, je dis que ça, c'est une pauvre explication.
C'est un fléau mondial, d'ailleurs, mais pas à l'ampleur.
Exactement, c'est un fléau mondial. Et puis, ça a même un peu des relents un peu racistes, parce que l'Afrique...
Mais souvent, ce sont les Africains eux-mêmes qui le disent.
Bon, hein, donc. Mais c'est parce que le débat n'est pas bien informé. En réalité, il s'agit de quoi? Avant, en Afrique, vous aviez un phénomène d'accumulation et de redistribution. Parce qu'en Afrique, les sociétés africaines mettent en avant la maximisation du capital social. Donc, on accumule et on redistribue afin de ne laisser personne hors du tissu social.
D'accord.
Donc, c'était ça le modèle originel. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'il y a? Avec les systèmes modernes de corruption et consorts, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu de l'accumulation, il y a la prédation. Ce n'est plus une accumulation, mais une prédation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part piller le capital productif qui est là, qui devrait être, disons, valorisé par les jeunes, par les paysans et ainsi de suite, et c'est capté par ces quatre sources de corruption dont vous avez parlé plus tôt, et puis redistribué.
Okay.
C'est là le malaise et c'est là aussi le malentendu.
D'accord.
Les gens pensent que c'est culturel, c'est propre à l'Afrique, non.
Le temps passe très vite avant d'aller en pause. Peut-être Elhaj Idi Abdou, le Niger est producteur d'uranium, hein, qui a annoncé donc son retour à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Comment cette décision du gouvernement va-t-elle impacter la gestion des ressources minières chez vous, surtout en matière de transparence?
Bien, merci. Évidemment, la transparence est incontournable. Sinon, on a beau avoir les richesses, mais s'il n'y a pas de transparence, c'est que ça ne profitera pas au pays. Et la transparence, c'est une condition importante pour que, évidemment, les citoyens jouissent de leurs richesses. Dans notre constitution, nous avons prévu un chapitre pour dire que les richesses nationales appartiennent au peuple et le peuple doit, effectivement, le peuple doit profiter de cela. Évidemment, dans une transparence, c'est que tout le monde se retrouve et quand tout le monde se retrouve, c'est qu'on ne peut pas, la corruption n'a pas de place dans un système transparent. Et c'est à ce titre-là, évidemment, quand on a dénoncé le comportement du Niger en se retirant de l'initiative des industries extractives.
D'accord.
Parce que quand on le fait, ça l'a fait.
Alors, Mathias, rapidement, avant d'aller à la pause, c'est une question de souscrire à ces initiatives comme l'ITIE. C'en est une autre, hein, une volonté de mise en place d'un processus de transparence. Est-ce que vous sentez, en fait, cette volonté des gouvernants aujourd'hui?
Non, je ne crois pas qu'on note auprès des gouvernants en Afrique la volonté d'engager une lutte crédible contre la corruption. Comme vous l'avez dit en passant tout à l'heure, non seulement ils ne permettent pas aux institutions qu'ils mettent en place de travailler, donc ces institutions souvent sont affaiblies parce qu'elles n'ont pas les moyens de travailler, ces institutions sont même instrumentalisées pour lutter simplement contre les opposants politiques et les organisations de la société civile.
Comment voulez-vous que ces fonctionnaires refusent la corruption? Roger Nyengele à Kananga, c'est en RDC, écrit que cette lutte est théorique, mais dans la pratique, rien n'est fait. La lutte contre la corruption est une affaire qui doit concerner tout le monde. Et puis Abdourahmane Koulibaly à Conakry pense que le problème de l'Afrique, c'est l'impunité. Pour lutter contre la corruption en Afrique, il nous faut une justice sans discrimination. Le numérique, propose-t-il, peut aider l'Afrique à atteindre les objectifs du développement durable et aussi peut aider l'Afrique dans la lutte anti-corruption. Voilà donc quelques-unes des nombreuses réactions. C'est quelque chose qui a retenu votre attention dans ces réactions de secteur.
Un rebond que je ferais, c'est dire qu'effectivement, il fallait la crédibiliser en montrant qu'elle a des pouvoirs en place et aussi augmenter un peu la transparence, notamment en faisant jouer un plus grand rôle à l'ordinateur dans la gestion des affaires
c'est
publiques.
C'est un peu ce qu'un des spectateurs disait.
Exactement.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, Mathias, il y a des pays qui sont quand même cités en exemple, hein, comme l'île Maurice, le Botswana, le Cap-Vert ou encore le Rwanda, de bons exemples. À votre avis, pourquoi les autres pays, ou en tout cas d'autres pays, ne peuvent pas avoir les mêmes résultats?
Disons que c'est très difficile à dire parce que tous ces pays sont sur le continent africain et vous vous demandez comment se fait-il qu'il y en a qui, de façon systématique, les pays que vous venez de citer, de façon systématique depuis près de 10 ans, sont parmi les 4 ou 5 premiers en Afrique.
C'est un constant dans le classement.
Les pays en Afrique subsaharienne. Voilà, exactement. Et donc, c'est très difficile à dire pourquoi, mais ce que je peux dire déjà, c'est la volonté politique. Si vous prenez tous ces pays dont vous parlez, le Botswana et le Rwanda en particulier, mais lorsque vous prenez par exemple l'île Maurice et le Cap-Vert, pour l'expérience que j'ai, c'est des pays où on met un point d'honneur au respect des règles. Vous allez au Cap-Vert aujourd'hui pour parler des questions liées à la gestion des affaires publiques. Chaque acteur vient avec les tests et se base sur les tests pour toutes les opérations. Et je pense que déjà nous amener à suivre les règles que nous adoptons est déjà un pas suffisant, ce qui est très difficile à obtenir dans les autres pays. Deuxième élément pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est à s'assurer que ces institutions de lutte contre la corruption qui sont créées sont dotées des moyens nécessaires pour qu'elles puissent faire correctement leur travail. La plupart du temps, ils sont asphyxiés et ne sont pas en mesure de faire leur boulot.
D'accord. Et vous, Elhadj Idi Abdou, la corruption ne peut pas quand même être une fatalité ou un fléau qu'on ne peut pas combattre. Que doivent faire justement ces gouvernements pour réduire le niveau de corruption? On ne peut pas juste dire que voilà, que c'est impossible de combattre la corruption.
Merci. En fait, ce n'est pas une fatalité, vous venez de le dire. Il y a un certain nombre de pays africains, le Botswana, le Cap-Vert, le Rwanda, la Namibie et l'île Maurice, qui ont marqué cette lutte-là. Donc la lutte est possible. Elle est possible pourquoi? Ces pays, quelle est leur particularité? C'est qu'il y a la volonté politique. Et la volonté politique a permis à bâtir une justice indépendante. Une justice indépendante, ça veut dire que vous avez un système judiciaire intègre. Et là, vous avez réuni, quand vous avez une volonté politique inébranlable, elle garantit l'indépendance de la justice. Tous ces pays cités, ils ont une justice indépendante. Tout cela là qui traite, la justice n'est pas indépendante, juste sur le papier qu'on a. Donc la corruption, effectivement, on peut la combattre. Mais pour la combattre, effectivement, il faut une volonté politique.
D'accord.
Et la volonté politique garantit la séparation des pouvoirs.
La séparation des pouvoirs, tout à fait. Amadou, les institutions financières internationales, peut-être qu'il faut qu'on en parle aussi, elles ont un rôle à jouer dans cette lutte. Et souvent, il est difficile de rapatrier les fonds qui ont été détournés. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour que ces institutions aussi se sentent un peu concernées, en tout cas, ne se réfugient pas derrière ce secret bancaire?
Bon, disons que ces institutions financières internationales, il faut savoir desquelles on parle. Il y a les banques commerciales privées qui peuvent être derrière le secret bancaire, mais il y a les institutions multilatérales dont le rôle est plutôt de régulariser, disons, les transactions financières à l'échelle internationale, dont le rôle, c'est justement jeter de la lumière sur tout ça. Donc là, c'est leur premier rôle, les institutions multilatérales. C'est éclairer tous ces flux-là, parce qu'on dit que le soleil est le meilleur désinfectant. Quand il y a de la lumière, disons, les choses se portent
la
mieux.
La transparence.
La transparence. Donc ça, c'est d'un. Et puis de deux, il y a aussi leur rôle à aider ces pays à renforcer leurs capacités, notamment en gestion publique, les marchés publics par exemple. Donc bien définir des codes de marché public qui soient suffisamment transparents et opérationnels avec la minimisation des grés à grés. Il faut les minimiser.
Ouais.
Et il ne faut pas les fractionner.
Justement, on a peut-être une minute, Mathias. Souvent, les études montrent aussi que les pays qui se sont lancés dans des grands projets, des grands projets quand même, sont susceptibles d'avoir un niveau élevé de corruption, justement. Comment aider ces pays à avoir plus de transparence et demander des comptes aussi à ces institutions financières internationales?
Je crois que M. Sissi vient d'aborder un aspect de la question, c'est garantir plus de transparence et de visibilité sur les processus de passation des marchés publics. Parce que justement, ces gros marchés passent par les marchés publics. Et aujourd'hui, qui sont pour la plupart opaques. Donc ce serait déjà le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est aider des organisations de la société civile, donc qui sont un peu comme l'émanation des citoyens de façon générale, à suivre la mise en œuvre des projets. Parce que lorsque vous avez la corruption au moment de la passation des marchés, vous avez la qualité des produits qui sortiront de l'exécution des marchés qui sera aussi entachée. Et donc il faut des organismes ou des organes internes de la société civile capable d'aider à la vérification de la qualité des produits, n'est-ce pas, qui sortent, voilà, de l'exécution des marchés publics.
Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.
virus casualties continue to mount. More than 1 million cases worldwide, with thousands dying each day. As scientists scramble in search of a cure, frontline health workers worry about their personal protective equipment.
Because when we get sick, who's going to be around to take care of you?
Is the world getting closer to finding a cure? What are we learning about this virus? And how are different countries responding to this unprecedented global health crisis? Unplugged In, the coronavirus crisis, cures and care. Hello and welcome to Plugged In. I'm Greta Van Susteren, coming to you from my home in Washington, D.C. Around the globe, more than 1.2 million people have been infected with the virus that causes COVID-19. Among them, world leaders, actors, musicians, medical professionals, and first responders. In some parts of the world, social distancing is having an impact, slowing infection and death rates. While a vaccine is about a year away, caring for those now with coronavirus is an uphill struggle. VOA's Brian Padden tells us about efforts to adapt existing drugs to battle this pandemic.
Older malaria drugs, chloroquine and hydroxychloroquine, are being used on a trial basis to try to kill off the coronavirus in early stages of infection.
This drug interferes with the virus's ability to enter the host cell and makes the cell less hospitable to the virus. And then if the virus is not effective at infecting the cell, it would not be as effective in reproducing and creating more copies.
This is a drug combination that President Donald Trump called a game changer, but scientists caution more study is needed to verify results and warn these drugs are potentially toxic. Another drug called remdesivir that proved ineffective to treat Ebola patients shows promise against the coronavirus. It also prevents the virus from entering the host cell and reproducing. Among drugs being tested to treat the coronavirus symptoms is a rheumatoid arthritis medication called Kevzara. This drug relieves the life-threatening congestion in the lungs by reducing the body's immune response that is causing inflammation as it tries to fight the infection.
They interfere with an important part of the inflammatory cascade, which is part of the body's defense mechanism in response to an overwhelming infection.
Large-scale trials of these drugs are underway to test their effectiveness and determine possible side effects that could be worse than the cure. Convalescent plasma trials have also begun in the U.S. to treat seriously ill coronavirus patients. This involves extracting antibodies from blood plasma of coronavirus patients that have fully recovered and injecting them into ill patients.
What we're doing is this low-tech, old-style solution of taking it from people, just like people did before antibiotics were invented.
However, doctors involved in past plasma transfers say it was not effective on the seriously ill and recommend it more for prevention and early treatment. Infectious disease experts say finding an effective coronavirus treatment could take months, while developing a vaccine to prevent infection could take more than a year. Brian Padden, VOA News, Washington.
Here in the United States, at the University of Pittsburgh, medical scientists believe they have developed an effective vaccine. I spoke to the team's leader, Dr. Louis Falo, about their research and when a vaccine might become available.
So essentially, this vaccine is made out of a small fragment of protein from the virus with the goal of developing an antibody response against that part of the virus, with the hopes that that will prevent that virus from entering the cells and therefore avoid the disease.
All right. How is it actually applied to the human?
Right. So it's delivered by a novel delivery platform that is known as a micro.